Alléluia. Nous sommes ici avant tout pour élever le Seigneur, hein, vous êtes d'accord? Hein, c'est bien que le frère me fasse quelque honneur, mais je crois que tout l'honneur revient au Seigneur. Hein. Voilà, je suis un garçon qui a bac moins 7. Ma sœur qui est auprès du Seigneur, qui est partie cette année on a vécu quelque chose de très exceptionnel, j'ai perdu mes 3 sœurs dans la même année. Mes 3 sœurs aînées, qui auraient pu être mes mamans, puisqu'il y a eu une séparation de corps chez mes parents. Et mon père vivait du n'importe quoi, quand on ne connaît pas le Seigneur, c'est ça. Hein. Mais il a rencontré le Seigneur, il s'est converti, puis je suis un des 4 fruits de la réconciliation. Et donc ma mère était enceinte en même temps que ses filles aînées, qui sont mes sœurs. Et mes 3 sœurs, j'ai des neveux plus âgés que moi, des nièces de mon âge, etc. etc. Et mes 3 sœurs sont parties la même année, cette année. Mes 3 sœurs. Et une de mes sœurs, ma deuxième sœur, Simone, elle me dit, Claude, je vais te dire quelque chose, on était en famille, là, je vais te dire quelque chose que je n'ai jamais dit à personne, que je t'ai jamais dit, mais j'aurais te le dire. Alors je dis, oui, ça m'intéresse. Il dit, quand on t'a vu grandir, ton enfance, ton adolescence, on s'est dit, ta mère et nous, les grandes sœurs, qu'est-ce qu'on va faire de lui? Il dit, tu étais une misère. Tu comprenais rien. À l'école, tu étais nul. Vous voyez ? Rendez-vous compte ? Et à 11 ans, j'ai reçu l'appel de Dieu. J'étais un garçon qui avait été frustré, je ne sais pas pourquoi. Enfin, maintenant, je commence à discerner certaines choses. Mais le Seigneur a planté quelque chose dans mon cœur. Baptême du Saint-Esprit à 8 ans. À 11 ans, j'ai vu un paralytique courir avec papa qui avait prié. Et là, j'ai reçu l'appel, j'ai dit, Seigneur, je veux te servir. Nul peut-être aux yeux du monde, nul à mes propres yeux, parce que c'est vrai, hein, quand vous faites 52 fautes dans votre dictée, quand votre prof de français vous dit, au lieu de chanter, si tu veux le bonheur sur la plage, là, parce que papa, il m'entraînait pour chanter sur la plage, si tu veux le bonheur, hein, tu ferais mieux d'apprendre à écrire et à lire, et il ajouta « Heureux les simples d'esprit ». Enfin voilà comment j'ai grandi, mais avec quelque chose qui a été planté du Seigneur, et c'est vrai sur le plan humain, je me savais appelé, mais je dis « Seigneur, ok, mais jamais l'estrade », parce que je ne me sentais pas du tout capable, intellectuellement, pas capable sur le plan de la communication, puis le Seigneur a fait que, voilà, avec le temps, les années, j'ai appris, je crois, à l'école du Seigneur, et le Seigneur nous a fait grâce, m'a fait grâce. Je voudrais vous partager justement ce Seigneur merveilleux ce matin. Et ce Seigneur merveilleux, en fin de compte, a des plans, et nous savons qu'en lui, cette postérité d'Abraham, les croyants, amen. Vous savez que nous sommes destinés à être bénis. Est-ce que vous êtes tous d'accord ? Bénis de toutes sortes de bénédictions, mais toutes les familles, et on est tous... C'est vrai, un membre d'une famille, même si on est célibataire. Mais Dieu veut vraiment, vraiment, vraiment bénir nos familles. Et la grande famille qui est l'Église, que Dieu soit loué. Alors je ne voudrais pas trop m'étaler sur mon introduction, je voudrais aller vite au sujet de ma réflexion. Il ne faut pas prêcher trop longtemps ici, bien que c'est comme d'habitude. Une bonne demi-heure, s'il n'y a pas trop de rallonge. Je vous propose une lecture dans Romains chapitre 12, où là il est question de la volonté de Dieu. Et on sait tous que cette volonté de Dieu, elle est avant tout, c'est ce qui est bon, c'est ce qui est agréable, c'est ce qui est parfait. Et ça, on est tous convaincus que la volonté de Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur. Hein, moi, j'ai toujours eu cette pensée dans mon cœur, et ça, c'est le Saint-Esprit qui l'a gravé dans mon cœur. Ça me dérange pas de vivre peut-être une galère, pourvu je sois dans le plan de Dieu. Ça me dérange pas de souffrir, pourvu je sois dans le plan de Dieu. Si je cherche la vie facile pour moi-même, là, je peux me planter. Mais je préfère la difficulté être dans le plan de Dieu que la facilité est hors du plan de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Et c'est une grâce de pouvoir réaliser que sur la terre, c'est vrai, l'Ecclésiaste, il est fort en disant « Comme l'étincelle est faite pour voler, l'homme est fait pour souffrir. » Vous aimez ce verset, vous? La souffrance, qui est adepte de la souffrance? On n'aime pas trop, hein, mais on sait que la chair va souffrir un sacré coup. Quand on veut obéir au Seigneur, on souffre, oui ou non? Quand vous jeûnez, vous souffrez pas quand vous jeûnez? Surtout les premières fois. Hein. Moi, les premières fois que je jeûnais, j'étais jeune. On a été exercé au jeûne très très jeune. Et quand je passais devant le frigo, c'était terrible. Il fallait que je l'ouvre. Hein. Et quelquefois, j'ai succombé à la tentation. Hein. Mais en vieillissant, on a appris à jeûner. On aime jeûner. Il n'y a plus de tentation parce que on sait ce que c'est que d'être défait des désirs forts de la chair là, qui nous jouent tant de tours. Et on sait mettre la place au Seigneur. Voilà que la volonté de Dieu sera faite. Ça, c'est le plus important. Et c'est ce que je recherche. Nous lisons donc au chapitre 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas, ça m'intéresse, ne vous conformez pas au siècle présent. Et là, je voudrais aussi lancer un appel pour la jeunesse, les jeunes couples. Vous savez, le siècle présent, c'est terrible dans le domaine de la foi. On est tellement absorbé. Le timing, comment il est, surtout à Paris, avec les heures de transport. J'ai un gendre, il fait 1h30 de transport le matin, 1h30 de transport le soir. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Voilà mes propos. Si on lit dans la version Semeur, hein, il est dit que nous soyons renouvelés. Le renouvellement de notre pensée, l'être intérieur, mais aussi la manière qu'on fonctionne, la manière qu'on pense. Je ne sais pas comment vous pensez tous les jours. J'ai rencontré beaucoup de chrétiens qui pensaient cette chose. Ah, qu'est-ce que c'est dur d'être chrétien. Si vous pensez, ah, j'y arriverai jamais. Vous voyez les pensées, comment parfois ça peut aller, hein, etc., etc. Mais on a besoin d'être visité par le Seigneur. Et je sais, vous connaissez suffisamment le Seigneur, et nous savons qu'avec les Écritures, que Dieu a des projets merveilleux pour chacun de nous. On est d'accord? Dieu veut le meilleur pour chacun. Est-ce que tout le monde est d'accord? Il y a des grâces à vivre. La grâce, elle abonde, elle surabonde. Et la mesure de la grâce de Dieu, elle est illimitée. Et je pense à ce que Dieu a permis que je voie dans mon ministère. Mais c'est extraordinaire quand Dieu agit, oui ou non? Quand la volonté de Dieu s'accomplit, amen. Quand Jésus dit, allez guérissez. Ben nous, en tant que serviteurs de Dieu, on aime bien voir des gens guéris. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Et c'est notre, je dirais, notre... Le propre du ministère, c'est d'apporter la guérison. Hein, quand il dit, allez ressusciter les morts. Oh, est-ce que c'est sa volonté? Il veut manifester sa gloire. Il veut, et d'autres choses comme ça. Il veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. C'est sa volonté. Alors c'est un petit peu tout ça que je voudrais partager avec vous. Il ne faut pas qu'on reste avec les pensées, les idées de ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu. Il faut vraiment chercher la présence du Seigneur et vivre de belles choses. Vous êtes d'accord? Amen. Gloire à Dieu. Hein, quand on vit de belles choses. Je me rappelle, moi, la première résurrection que j'ai vécue, hein, j'étais moi le premier surpris. Vous savez, c'est comme quand Pierre a été libéré. Il priait pour sa libération, et quand Pierre est apparu, non, c'est pas lui, c'est son ange. Et quand moi j'ai eu cette première résurrection, j'étais vraiment surpris, et là, quelle gloire. Et ce frère qui nous parlait, il entend une voix, retourne, il te réclame. Et le frère qui est pas content, il dit, mais j'étais engrangé, j'étais dans la gloire, et j'ai dû reprendre un corps de misère, j'ai dû revêtir à nouveau l'humanité. Il dit, c'est terrible de revenir là sur cette terre, alors que j'étais dans la félicité. Et là, j'ai appris beaucoup, là. Et il disait, vivement qu'on me mette dans la boîte. C'était son slogan. Vivement que je parte. Vivement que je retourne. Et ça m'a enseigné beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est que la chair ne sert de rien. Mais c'est ce qui se passe dans le cœur. Amen. C'est la vie intérieure qui compte. Et dans ce propos, je voudrais aller dans le sens, vous savez que Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise du Saint-Esprit et Jésus revient. Je vais aller un petit peu dans ce sens-là. Première chose, c'est le salut. Avec le salut, et c'est pourquoi j'ai beaucoup aimé tout à l'heure, quand il est dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice ». Vous savez qu'on a ce texte qui est sorti de la bouche de Jésus, et il va dans le sens que sur la terre, au quotidien, on a besoin du toit, on a besoin de la nourriture, on a besoin du vêtement, on a besoin de travail, pour ceux qui cherchent du boulot, c'est dur, hein. On a besoin de la santé, parce qu'on peut avoir du travail, mais si on n'a pas la santé, c'est dur. Et le quotidien, dites-moi mes frères et sœurs, est-ce que c'est facile? Qui peut me dire c'est facile? Et le quotidien, quand on est jeune, pour l'avenir, les études, le quotidien, fonder un foyer pour se marier, pas se tromper, le quotidien, quand on est marié, puis on a un conjoint avec un caractère, ou une culture, ou des idées bizarres, est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile? Hein? On organise souvent avec mon épouse des séminaires, couples, tout ça. Même chez le peuple de Dieu, c'est pas facile. Et là, dans ce contexte, Jésus dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout sera pourvu. » Vous vous rendez-vous compte? Tout sera pourvu. Me lançant dans le ministère par la foi avec mon épouse, on est parti, on ne savait pas du tout où on allait, on ne savait pas combien on allait gagner. Je lui ai dit « Tu sais, si tu acceptes de me marier, il y aura toujours quelqu'un entre toi et moi. » Vous savez qui c'est? C'est le Seigneur. Et dis-moi, je ne te promets pas d'acheter des beaux meubles. Je ne te promets pas de vacances. De toute façon, on n'en a jamais eu. On faisait des camps, on organisait plein de choses. On s'occupait des enfants, de la jeunesse. Mais je peux vous dire, parce qu'on a mis le Seigneur devant, on a vécu miracle, sur plan matériel, sur plan de la santé. On a eu des miracles. Mon fils, on a failli le perdre plusieurs fois. Ma fille, Élise, la dernière... Elle ne devait pas dépasser les 5 ans, elle faisait des bons pneumonies sur bons pneumonies, et la science ne répondait plus. Et Dieu nous a donné des grâces et des grâces et des grâces et des grâces. Amen. Et en humaine du mariage, j'ai marié une fille qui s'appelle, son nom de famille c'est Gomez. Et pour ceux qui connaissent les Gomez, ses parents, et ceux qui connaissent les Biville, mes parents, hein, nous sommes aux antipodes. Totalement différent. Puis Dieu a voulu qu'on s'aime. Et moi, je ne voulais pas un mariage n'importe comment. Moi, je voulais vraiment que ce soit Dieu qui conduise. Et quand je l'ai vue pour la première fois, j'ai dit, quoi, elle? Je la prenais pour une pimbèche, une... Et puis Dieu nous a unis. Et je peux vous dire combien Dieu nous a rendus heureux. Il nous rend heureux. Il nous a donné de beaux enfants qui servent le Seigneur. Et je peux vous dire, dans nos limites, dans nos faiblesses, sur cette vie difficile, si nous cherchons le royaume de Dieu, eh bien le Seigneur veut nous combler. Dans la version Semeur, là il est question de concernant de faire la volonté de Dieu, c'est de ne pas être comme le monde qui se préoccupe sans cesse aux choses de la terre. Il se préoccupe sans cesse aux choses de la terre. Nous, peuple de Dieu, on ne doit pas être sans cesse avoir nos pensées toujours tournées vers les choses de la terre. Et pourtant, ça nous pompe, hein. Il faut penser aux enfants, il faut penser à l'épouse, il faut penser au boulot, il faut penser aux réunions, il faut penser à être à l'heure, il faut penser à se laver. Vous êtes d'accord? Il faut penser à tout ça. Et ça prend de l'énergie, ça nous prend un temps fou. Mais à quel moment... Mon frère, ma sœur, je vous pose la question, à quel moment vous rencontrez le Seigneur chaque jour? À quel moment vous avez un cœur à cœur avec lui? Et vous savez, au début, c'est difficile, hein, mais si on prend de bonnes habitudes, comme Marie, elle a pris la bonne part, hein, la bonne part. C'est pas qu'elle ne faisait rien à la maison, mais elle a mis une priorité. Et vous savez, si on veut vraiment chercher le royaume de Dieu, il faut faire des coupes. Il faut faire des coupures. Et les frères, il faut sauter un match de football. Hein. Et les sœurs, autre chose. Sauter autre chose, peut-être. Organiser autrement sa vie. Moi, j'ai su qu'il fallait absolument, comme le psalmiste, je réveille l'aurore si je voulais vraiment avancer dans la connaissance de ce roi, de ce royaume extraordinaire, de celui qui est Jésus, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qui est l'agneau de Dieu et qui veut nous offrir vraiment une vie avec abondance. Il me fallait vraiment chercher sa face. Et moi, j'étais un lève-tard, un couche-tard et un lève-tard. C'était très difficile de me sortir du lit. Mon père disait, tu veux servir le Seigneur? Regarde, il est 7h moins de quart et à 7h, il faut que tu sois au boulot. Ah, j'étais au boulot à 7h, hein, pas rasé, évidemment. Et là, j'ai appris qu'il fallait... Alors j'ai crié au Seigneur. Puis maintenant, je dis, Seigneur, arrête, hein, il est 3h du matin, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Mais je peux vous dire, ces heures dans la nuit passées dans la présence du Seigneur, est-ce que vous avez la capacité de chercher le Seigneur? C'était mon premier point. Ça, c'est le salut. L'Écriture nous dit, nous sommes arrachés du monde des ténèbres pour être transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et si nous sommes comme les païens qui sont toujours à se préoccuper des choses d'en bas, on ne va jamais décoller dans le domaine de la foi, jamais décoller pour vivre de belles choses venant de ce roi des rois, pour vraiment triompher des choses d'en bas. L'Écriture nous dit vraiment de nous affectionner aux choses d'en haut. Et c'est seulement par ces choses d'en haut que nous triomphons de toutes celles d'en bas. Amen. Gloire à Dieu. Je pourrais vous donner plein de témoignages, mais je vois que la pendule elle va trop vite chez vous. Là. La deuxième chose, après le salut, être sorti des pensées du monde, des choses du monde, pour entrer vraiment dans les pensées de Dieu, dans la vie du royaume de Dieu, dans la vie des choses qui viennent de lui et qui déversent en nous. Vous savez que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la paix, c'est la justice. Amen. C'est la joie. Ça, c'est le salut. Est-ce que tout le monde est d'accord? Hein? Et les chrétiens qui n'entrent pas dans cette dimension de paix, justifiés par le Seigneur, qui n'ont pas la joie, moi, je les plains. Vous êtes dans du religieux, mais Jésus n'a pas trouvé sa place sur le siège de votre cœur. Que Jésus règne dans votre cœur. Amen. La deuxième chose, après le salut, je pense à Jésus qui guérit. Moi, je pense que tous, on a besoin de guérison. Guérison intérieure. Guérison physique, je vais les laisser de côté, c'était plus dans mon premier point. Mais deuxième point, c'est la guérison du cœur. Cette guérison du cœur, elle est indispensable. Moi, j'ai eu besoin d'être guéri de plusieurs choses au fond de moi-même, de frustration. J'étais un garçon qui avait des parents remarquables. Nous étions... vraiment entouré de chrétiens, j'aimais aller à l'église, j'aimais déjà Jésus, je vivais plein de belles choses déjà spirituellement parlant, et j'avais un sentiment terrible, je croyais et je pensais sérieusement que personne ne m'aimait. Vous rendez-vous compte? J'avais de bons parents, on avait de bonnes églises, on vivait de belles choses spirituellement, mais j'avais en moi un terrible mensonge, c'est que je pensais que j'étais pas bien aimé, j'étais mal aimé, et que j'étais pas comme les autres. Les autres étaient. C'est vrai que j'étais quelque part un peu nul. C'est vrai que quelque part j'avais une comprenette difficile. C'est vrai que j'avais quelques handicaps. Mais le diable, lui, il met la louche. Vous êtes d'accord avec moi? Le diable, il met la louche. Parce que Jésus, il n'est pas venu pour les super. Est-ce que vous êtes d'accord? Il est venu justement pour des gens comme moi. Mais le diable dit, non, non, tu es trop nul. Et j'ai grandi avec une frustration. Et vous savez, il a fallu des années, même quand j'étais dans le ministère, il y avait toujours cette frustration. Je ne serai jamais un bon pasteur. Et quand je voyais les autres pasteurs prêcher, oh, qu'est-ce qu'ils prêchent bien. Ah, j'étais malade. J'étais malade. Moi, je balbutiais. J'employais pas les bons mots. Un jour, le dire chrétien, j'ai dit crétin. Faut pas faire ça, faut pas faire ça. Il y a plein de choses comme ça. Alors, comme le frère vous a dit la semaine prochaine, non, c'était la semaine dernière, ça bouillonnait là, mais ça sortait de travers. Ça sortait de travers. Et les chrétiens m'aimaient. Les chrétiens me disaient, qu'est-ce que tu m'as fait du bien? Moi, je comprenais rien du tout. J'ai dit, Seigneur, c'est que tu m'as appelé. Alors, combien de fois j'ai dit, j'arrête, je veux plus prêcher. Je suis nul, je veux plus prêcher. Mais le Seigneur m'a guéri. Sur ce point-là, puis sur d'autres points. Hein? Et quand cette dernière fois, là, je me vois encore pleurer, je dis, Seigneur, je prêcherai plus, hier c'était archi nul, etc. Ce soir, je vois mon maître de stage, je lui dis, c'est fini, je ne prêcherai, j'arrête. Et avant le soir, je reçois un coup de fil d'une sœur de l'église, Annie Claude. Hier soir, écoute bien. Alors, je dis, oh là, qu'est-ce qu'elle va me dire? Hier soir, je croyais qu'elle allait me faire des reproches. Elle me dit, tu sais, j'en ai entendu des prédicateurs, hein. Et des bons, qui prêchaient très bien. Elle n'a jamais dit que j'avais bien prêché. Elle n'a jamais dit que j'ai bien prêché. Mais vous savez ce qu'elle a dit? J'ai entendu beaucoup de belles prédications. Mais hier soir, Dieu m'a parlé comme jamais. Et moi, j'allais le soir même aller dire à mon pasteur, j'arrête. Je ne pouvais plus. J'ai compris que dans ma faiblesse, le Seigneur voulait quand même m'utiliser. Et c'est comme ça qu'on vit des guérisons. Amen. Si dans ta faiblesse, le diable s'acharne pour dire, regarde ton passé, regarde ceci, regarde cela, il faut arrêter la voie du mensonge, du menteur. Il faut vraiment résister. Et je vois cette pensée-là de guérison avec le psaume que nous connaissons très bien, 37, verset 4, hein, « Fais de l'Éternel tes délices. » Hein, dans le Summer, c'est « Fais de l'Éternel ta joie. » Et tout ce qui est au fond de ton cœur, il va te l'accorder. C'est beau, hein? Et vous savez, quand on est frustré, on est doublement frustré parce qu'il y a des choses qui sont là, mais on passe à côté. Est-ce que vous êtes d'accord? Et c'est terrible, hein? Quand on a de belles choses que le Saint-Esprit a déposées, il y a une belle promesse de bonheur, il y a une belle promesse d'un bon mariage, puis quand on voit là, oh, qu'est-ce qui se passe? Il y a une belle promesse pour une belle église, puis quand on voit l'église, oh, on est malheureux, oui ou non? Il y a des belles promesses et puis on a besoin d'être guéri pour dépasser le mensonge. Mais si on fait de l'Éternel notre joie, il va accorder le développement de ce qui est bien, agréable, parfait selon lui. Amen. Et vraiment, moi je crois que ici, autant nous sommes, il y a des choses, peut-être que tout le monde ignore, mais qui est déposé de Dieu et Dieu veut que vous les viviez. Amen. C'est extraordinaire, peut-être un appel, mais ça peut être tout simplement une chose précise. Je pense à moi, j'avais ma belle-mère qui n'a pas supporté que sa fille marie un pasteur. Et ça a été très dur. Des gens très corrects. J'ai beaucoup appris d'eux sur le plan humain. Mais alors, ce plan spirituel, c'était pas du tout évident. C'était très difficile. Et alors que les années passaient, ma femme ne savait pas quitter la maison de ses parents sans pleurer. Pour vous dire, c'était très, très douloureux. Et je voyais les années passer, puis la mamie vieillissait. Et elle a eu un cancer, elle arrivait à 80 ans. Et avec mon épouse, on dit, on n'accepte pas qu'elle parte sans que Dieu la visite. On avait reçu ça dans notre cœur. On dit, on veut pas qu'elle parte comme ça. Et alors, on a eu une stratégie de se tenir devant le Seigneur, de faire de l'Éternel notre bonheur, notre joie. C'est vrai qu'on a su dépasser toutes les blessures. On a su toujours bénir nos parents. On a toujours su faire ça. Et là, on la bénissait encore. On dit, Seigneur, tu te débrouilles, tu fais ce que tu voudras. Mais nous, on veut un cœur à cœur avec la mamie. On l'avait là. Et on se réjouissait. Et une nuit, comme ça, avec mon épouse, on était dans la prière. Et là, le Saint-Esprit a pris le relais. Et dans cette même nuit, Dieu a permis qu'elle ait un songe. Amen. Le lendemain, ce n'était plus la même femme. Elle est venue nous confesser toutes ces années difficiles. Et elle nous dit, Dieu m'a demandé cette nuit de choisir quel côté je voulais aller. Et j'ai décidé de suivre Jésus. Et elle a demandé pardon. Et cette femme, qui pourtant des années, des décennies... avec un regard, on n'était jamais à l'heure. Soit c'était trop tôt, soit c'était trop tard. C'était jamais bien. Tous les défauts, on y avait le droit. Et c'était pas rien, parce qu'il est pasteur, c'est pas rien. Je vous en passe. Hein. Et là, avec cette guérison, son regard, tout ce qu'on a vécu avec elle après, m'a guéri d'une manière extraordinaire. Amen. Fais de l'Éternel tes délices. Et les choses les plus... compliqué. Fais de l'Éternel ta joie, il va s'occuper. Il va t'aider. Ça, c'est une histoire de cœur, c'est secret, c'est pour le plus profond de toi-même. Le troisième point, après la guérison, c'est Jésus baptise du Saint-Esprit, vous le savez ça? Et là, nous avons un magnifique texte, c'est celui d'Éphésiens, chapitre 1er, verset 3, où il est dit que en Jésus, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Je crois que le spirituel doit prendre, chez nous, le peuple de Dieu, le pas sur le temporel. Est-ce qu'on est d'accord? Que Dieu se révèle au monde inconverti par le temporel, alléluia! Il les guérit, pour du boulot, ils sont émerveillés de la grandeur de Dieu. Mais nous, maintenant, on ne sert pas le Seigneur pour le temporel. On sert le Seigneur pour être rempli de lui. On est d'accord? Toutes sortes de bénédictions spirituelles. Jésus a dit, vous recevrez une puissance, vous recevrez l'Esprit Saint, l'Esprit de feu, hein, cet Esprit extraordinaire, cet Esprit de Dieu. Dans Semeur, là, Éphésiens chapitre 1er, il dit que pour que nous soyons visités dans l'Esprit, dans la bénédiction de l'Esprit, votre Esprit rempli de l'Esprit de Dieu. Vous voyez le crescendo, là, au début? On est rempli de ce désir de rechercher les choses d'en haut. Amen. Là, après, c'est une histoire de cœur, où vraiment on fait de l'Éternel notre joie, et puis il va vraiment nous guérir. Et là, on est maintenant, nous qui croyons, et qui avons reçu l'Esprit, nous devons développer cette vie de l'Esprit. Amen. Amen. Paul va dire comme ça, est-ce que tous parlent en langue? Est-ce que je peux me permettre de poser la question? Est-ce que tous parlent en langue? Et je voudrais plus. Je voudrais que tous prophétisent et que tous prophétisent. Je voudrais tous, vous soyez animés de cet esprit prophétique pour que, ainsi en langue, en parlant à Dieu, vous puissiez recevoir plein de choses pour pouvoir parler aux autres. Les consoler, les édifier, les bénir d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Vous savez, mes frères et sœurs, la volonté de Dieu, après avoir été guéri dans notre cœur, c'est de développer le caractère de Christ par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Qui n'aime pas citer le fruit de l'Esprit? On trouve ça formidable. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous connaissez le fruit de l'Esprit? Vous le connaissez vraiment? Vous savez les réciter, les neuf, là? Les neuf facettes du fruit? Alors maintenant, je vous demande, est-ce que vous le vivez? Est-ce que vous développez? Est-ce que cette vie de l'Esprit en vous développe le caractère de Christ? Cette nature divine, Dieu est amour. Le peuple de Dieu doit recevoir l'amour. Cet amour doit être déversé dans nos cœurs avec toute cette, je dirais, toutes ces facettes de fruits de l'amour. Est-ce qu'on peut dire qu'on est pauvre dans la volonté de Dieu de ce fruit? Est-ce qu'on peut dire qu'on est pauvre? Moi, je pleure ça, sur l'état de certaines églises, je pleure sur certains couples, certaines familles, les relations père-fils, mère-fille. Je pleure devant des réactions, des attitudes. Mais je me dis, mais où est le Seigneur, là? Où est l'onction? Où est l'Esprit? Où est le Saint-Esprit? Vous avez cru, vous avez reçu l'Esprit, mais où est-il? Ranimez le don. Renouvelez votre relation avec le Seigneur. Laissez le Saint-Esprit vous imbiber de cette présence si belle. Moi, je dis, j'emploie souvent en ce moment, Seigneur, imbibe-moi pleinement de toi. Amen. Vous savez, une éponge bien imbibée, imbibée, c'est bien, hein? Mais si elle n'a pas été imbibée d'eau pure, vous savez, une éponge qui a tout ramassé sur la table, ou qui a peut-être essuyé les toilettes, ou qui a peut-être essuyé, je ne sais pas, un sol ou des choses, et puis qui est imbibé là. Dès qu'il y a une pression, qu'est-ce qui va sortir? Hein? Ça va être sale et ça va puer. Oui ou non? Mais quand on est dans la présence du Seigneur, mes frères et sœurs, ce crescendo avec mon troisième point, c'est que on arrive même à être continuellement dans la présence du Seigneur, dans la prière, dans la pensée. Il y a toutes les choses graves qui nous entourent, il y a toutes les oppositions qui sont là, il y a toutes sortes de choses qui font mal, mais nous, on est assis avec Jésus, on est dans la présence du Seigneur, on renouvelle les promesses, on voit sa victoire à Golgotha, il est vraiment ressuscité comme on l'a si bien entendu tout à l'heure, on vit vraiment de ces choses dans nos pensées, là on renouvelle les choses du royaume de Dieu et le Saint-Esprit valident. Et alors là, on dépasse tout ce qui est miséreux. Et puis quand il y a une pression, un obstacle, une difficulté, la présence de Dieu se dégage. Amen. Mais quand on n'est pas renouvelé, puis qu'il y a de la pression, tiens, prends ça dans ta poche. Oui ou non? Il t'arrive ça, ben c'est bien fait pour toi, plutôt que tu le cherches. C'est très fraternel, hein? Hein? Et n'avez-vous pas, comme moi je l'ai eu souvent encore, ah si tous les chrétiens étaient comme moi. Ou si tous les pasteurs étaient comme moi. Il n'y a pas une dose d'orgueil encore en nous. Alors que nous devons, comme Christ qui s'est entièrement dépouillé, c'est ça sa volonté, pour être revêtu, il faut se dépouiller. Offrez vos corps. Il est le temple du Saint-Esprit. Offrez-le. Qu'il soit vraiment nettoyé, purifié. Seigneur, lave-moi, je serai pur. Amen. Et le vase pur, il est déjà heureux d'une joie qui permet au Saint-Esprit de se développer en nous. Que Dieu vous aide dans ce troisième point qui est la vie de l'Esprit. Moi, j'aime beaucoup ce sujet et je trouve qu'en France, on est pauvre. Où sont nos prophètes? Où sont ceux qui ont une parole de connaissance? Une parole de révélation, une parole de sagesse? On a besoin. Chacun de nous, on pourrait être des gens inspirés. Vous savez, quand je suis inspiré, moi, je suis heureux. Quand je suis plat comme une galette, je suis malheureux. Et parfois l'Esprit nous saisit. On ne sait même pas trop pourquoi. Vous voulez une petite anecdote? Tant pis, hein, je le prends sur mon quart d'heure. Nous avions dans l'église, avant Amiens, c'était Lens-Liévin Arras, nous avions un couple chrétien très fidèle. Ils ont un fils unique. Et ce fils unique, ça remonte à 40 ans. Ce fils unique tourne mal, c'était le début de la drogue, c'était le début de toutes ces choses-là. Et il était à fond les deux pieds dans la drogue, dans les boîtes de nuit et tout ce qu'on veut, 18 ans. Vous imaginez le couple chrétien, un seul fils qui tourne mal. C'est une souffrance. Et cette souffrance, moi je l'ai eue en pleine figure, je l'ai compris, je voyais la détresse du papa, la détresse de maman, de ce couple appelé Dufour, Gérard Dufour. Et là, on souffrait avec eux, on pleurait avec eux, et on jeûnait avec eux, etc. Les mois passent, peut-être l'année passe et tout ça. Et puis les choses sont ainsi. Moi je l'ai juste croisé une fois à la maison, il m'a fui évidemment, c'est tout. Ça s'arrête là. Et un samedi soir, j'avais trois réunions à préparer. Alors, samedi soir, je suis dans la recherche et j'avais beaucoup de mal à préparer mes messages. Et là, le Saint-Esprit me saisit. Va dans telle boîte de nuit le chercher. Un pasteur à minuit dans une boîte de nuit. Ça vous convient? Ça vous convient? Et à l'époque, vous savez, moi, j'étais pas fier. Hein. J'ai dit, quoi, s'il y en a un qui me voit? Mais alors, je dis, mais c'est pas possible, Seigneur. Alors, je voulais pas rentrer. Puis, c'est, pour nous, à l'époque, entrer dans un café, c'était un péché. Hein, aller au cinéma, c'était un péché, les jeunes. C'était comme ça. Nous, on a grandi comme ça. Alors, aller là où. Alors, je savais pas, je suis rentré au bord, tout ça. Et justement, il sort. Justement, il sort, complètement shooté. J'ai un zombie devant moi. Alors, je lui parle. Plus je lui parlais, moins il comprenait. Je dis, veux-tu que je te ramène? Il est d'accord, je le ramène chez lui. Je me couche et je ne suis pas content après le Seigneur. Je dis, Seigneur, j'ai perdu mon temps. J'ai perdu mon temps. Ce n'est pas le moment de lui parler de toi, il est complètement à côté de la plaque. Le lendemain, ma troisième réunion, l'évangélisation, troisième avec l'index, l'évangélisation, je termine mon message, il n'était toujours pas là. Je lance l'appel, qu'est-ce qui rentre? Un gars traqué par le Saint-Esprit, convaincu de péché, c'était mon Jean-Baptiste. Il traverse la salle, il se jette au pied de l'estrade. J'étais en train de faire l'appel, ça comptait bien, ça tombait bien, hein, mais ce n'était pas mon message. Il pleurait sur ses péchés. Une conversion radicale. Aujourd'hui, c'est un ancien solide qui prêche. Le Saint-Esprit a tout fait. Amen. C'est vrai, il m'a poussé. C'est vrai, je suis allé. C'est vrai, je lui ai dit des choses. Mais le Saint-Esprit s'est chargé que certaines choses restent. Et la conviction, il n'a pas dormi. Et le matin, quand il est revenu dans le bon sens, il a été pris de conviction de péché. Il s'est souvenu qu'il y avait une réunion. Il a couru une conversion extraordinaire. Ah, Saint-Esprit, viens nous aider, hein. Amen. Il me reste quelques petites minutes, 2 minutes. C'est pour mon 3e point. Celui-ci, c'est le point que j'aime beaucoup de Romains chapitre 12. Moi, je vous invite à relire ce chapitre. On a lu au début les versets, là, de la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Et la suite, ne vous prenez pas trop au sérieux, mais la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite, c'est que vous êtes un membre du corps de Christ. Et ça, j'appelle le retour de Jésus. Jésus est en train de se préparer une épouse. Est-ce que vous êtes d'accord? Jésus se prépare une épouse, c'est son église, qui est le reflet, c'est l'église locale, c'est un reflet. Mais on sait que c'est une église universelle. Et l'église de Jésus, c'est ce qu'il y a de plus cher au cœur de Dieu le Père. Il y aura les noces de l'agneau. Vous savez? Le but du salut, mes frères et sœurs, c'est pas seulement d'être arraché des ténèbres, du royaume, de ce monde mauvais, et de nous faire entrer dans une vie bien meilleure, mais c'est que nous soyons remplis de Jésus, et que Jésus en nous manifeste sa personnalité. Amen. Vous êtes le corps de Christ, Jésus est la tête, et chacun de vous, vous êtes un membre. La volonté de Dieu, c'est que vous preniez votre place en tant que membre du corps de Christ, dont Jésus est la tête. Je voudrais vous dire quelque chose, tout simple. Je vous ai parlé un petit peu de moi, je vais terminer en parlant un peu de moi, mais j'attribue ma croissance spirituelle par les frères et sœurs dans la foi. Le Seigneur m'a béni, mais au travers d'eux. Amen. C'est extraordinaire. Et je suis conscient aussi que moi j'ai pu bénir. C'est le Seigneur qui a béni au travers de moi. Je voudrais vous dire très solennellement, la bénédiction passe par les membres du corps de Christ. L'édification du corps de Christ passe par les ministères qui organisent l'ensemble, et l'ensemble vit une croissance, un développement. Chacun pour sa part, recevant du Seigneur, peut donner de la part du Seigneur à l'autre ce qui lui est nécessaire. Est-ce que vous me comprenez? Ça, c'est la volonté de Dieu. Vous savez, moi, je suis très peiné quand les gens se plaignent de l'Église. Alors que l'Église, c'est ce qu'il y a de plus beau. Est-ce que vous êtes d'accord? Regardez l'Église, non pas dans ce qu'il reste à faire, parce que là, il y a sujet de se plaindre. On est d'accord? Hein? Mais regardez l'Église dans tout ce que le Seigneur a déjà fait. Amen. Une âme arrachée des ténèbres. Hein? Quelqu'un qui commence à louer pour la première fois publiquement. C'est un miracle, ça. Pour quelqu'un de très timide. Quelle victoire, et ça va l'aider. Quelqu'un qui prophétise pour la première fois, c'est formidable. Mais rendez-vous compte, quelqu'un qui arrête de mentir. Quelqu'un qui sait s'humilier. Quelqu'un qui sait reconnaître ses torts, même si c'est que 3%. Bon, c'est plutôt 25%, mais enfin... hein? Mais quelqu'un qui... Mais quelle, cette croissance, mais je dis, qu'est-ce qu'elle est belle, l'Église de Jésus. Quelle œuvre Jésus n'accomplit-il pas chaque jour pour tous ceux qui s'approchent de lui, qui cherchent sa royauté, comme on l'a lu, pour tous ceux qui font de lui sa joie. Alors, il nous guérit intérieurement et puis il nous permet ainsi vraiment de grandir dans la foi, dans la vie de l'esprit. Et dans l'Église, c'est un rayonnement. Amen. En tant que pasteur, on était habitué à faire des visites. Par ici, c'est difficile les visites. Hein. Et je termine sur cette anecdote. Je suis bien, hein, c'est bon. Il y avait des visites, mes frères et sœurs, il y avait des visites. On y courait. Parce que on allait voir les gens pour les bénir, mais on sortait de là, on était encore plus bénis. On leur donnait comme une goutte. Ça produisait tellement de fruits que nous, on était arrosés, l'arroseur arrosé. Amen. Alors on y courait. Hein. Puis il y a d'autres visites pour y aller. Alors je ne vous dis pas, il faut y aller, c'est notre devoir. On est pasteur, c'est une brebis, il faut absolument s'y coller, etc. etc. Et on sait que dès qu'on franchira la porte, c'est pour recevoir d'abord un seau d'eau froide. À chaque fois, c'est un pic, directement contre nous, contre l'Église, contre un frère, contre une sœur. C'était systématique chez certains. Comment ça se fait? Ils font partie de la même Église, ils ont le même pasteur et le même Seigneur. Et ça n'évolue pas de la même manière. Vous avez compris ma conclusion? En fin de compte, la volonté de Dieu, c'est quand mes pensées se laissent transformer. C'est quand mon intelligence se laisse interpeller. Non plus pour vivre comme on vivait selon la chair et selon le monde, mais se laisser imprégner, imbiber d'en haut. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ce message. Merci pour la liberté que j'ai eue de le donner. Et Seigneur, je sais que c'est toi qui dois enfoncer les choses et parfaire toutes choses. Seigneur, nous sommes que des instruments, mais on sait, Seigneur, que tu fais les choses bien. Et pour tous ceux, Seigneur, qui ont été interpellés sur un point ou sur un autre, je prie maintenant, Seigneur, pour qu'il y ait de heureux lendemains. Est-ce que vous êtes d'accord? Qu'il y ait de heureux lendemains. Seigneur, que vraiment plusieurs, vraiment vivent de belles choses et que ce qui est enfoui, ce qui est glorieux venant de toi puisse éclore et que la vie de Christ soit une vie avec abondance au nom de Jésus. Amen.
Va garder les yeux fermés un instant.